Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 6 avril, bonne journée, bienvenue au 98.5. Le point sur la guerre en Ukraine, d'abord le président Zelensky qui a, devant les Nations Unies, décrit des massacres dans son pays. Il a dit que ça n'avait aucun sens, notamment que la Russie puisse avoir un droit de veto, alors que la Russie est l'agresseur de l'Ukraine, qu'il a comparé d'ailleurs à l'État islamique compte tenu des massacres qui ont touché sa population. Et on va faire le point ce matin avec Tetiana Ogarkova, notamment parce qu'on a beaucoup parlé de Mariupol, on a beaucoup parlé de Boutcha, mais Tetiana, il y a d'autres villes qui ont été lourdement touchées, des infrastructures, mais aussi des civils.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Justement, ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui dans la banlieue nord de Kiev, dans tout le territoire qui s'étend de Kiev jusqu'à la frontière biélorusse, notamment par exemple la ville de Borodyanka, qui a connu encore plus de cruauté russe. Et on découvre même plus qu'à Boutcha les corps de civils morts, torturés, aussi avec le monument de Taras Shevchenko, c'est le poète national, le poète fondateur en quelque sorte de la nation ukrainienne au 19e siècle. Donc on découvre ce monument dévasté. On découvre aussi les atrocités sur la route de Jytomyr et dans une dizaine, on va dire, de villes et villages dans la région de Kiev et de Jytomyr. Donc partout, malheureusement, les mêmes images, les mêmes tortures, la même méthode. Et donc, on craint bien sûr de découvrir exactement la même chose dans tous les territoires d'Ukraine qui étaient où l'armée russe avait mis les pieds. Donc Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, avait tout raison de remettre en question le droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque justement on voit ce carnage au centre même de l'Europe et l'OPI, l'État qui a le droit de veto, qui fait part du Conseil de sécurité, a droit de continuer son agression. On a fait cet appel plusieurs fois au cours de 8 ans après l'annexion de la Crimée. On était moins attendu qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, bien dramatiquement, mais on parle, Volodymyr Zelensky parle les images à l'appui. Donc c'est les résultats il a dit que le droit de veto se transforme en droit de la mort, donc de commettre la mort au centre même de l'Europe, de la civilisation européenne en fait, à côté de Kiev.
Maintenant, Tetiana, parlez-nous aussi de ce qui se passe sur le plan militaire. Il y a toujours des frappes. Comment se déplacent les soldats russes?
Aujourd'hui, on constate que voilà, donc l'armée ukrainienne a repris le contrôle, comme on dit, de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Donc là, c'est plus sécurisé, même si le territoire est miné. Mais ce que prépare la Russie, elle ne prépare beaucoup de surprises à l'est. Toujours, ils sont en train de ramasser des troupes, à les préparer pour une attaque massive. Mais à la fois, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, selon l'information de l'état-major ukrainien, il y a des préparatifs qui se passent en Transnistrie. Transnistrie, c'est une enclave russe depuis 92, Transnistrie annexée du territoire moldave. Et donc, là, il y a une base militaire russe en ce moment qui n'est pas très nombreuse, mais qui est là. Et aujourd'hui, ils préparent des aéroports pour recevoir des avions russes avec, sans doute, on peut justement deviner, des parachutistes ou bien des machines militaires. Donc, ils peuvent continuer leur attaque, par exemple, en passant par Transnistrie vers Odessa, parce que Transnistrie, ça se trouve au sud. Donc, on peut imaginer qu'ils peuvent envisager une attaque sur le sud ukrainien en passant par le territoire de la Transnistrie. Donc c'est une chose qui est prise, qu'on doit prendre en compte. Ils peuvent ouvrir un deuxième front. En même temps, ils sont très actifs au sud de l'Ukraine, c'est-à-dire au niveau de Kherson. L'armée ukrainienne a réussi à libérer 3 villages hier, mais ce sont des villages. Kherson reste occupée. C'est une ville importante au sud, la seule ville, en fait, la seule grande ville qui a tombé au cours des 42 jours de la guerre.
Merci beaucoup, Tatiana. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Tatiana Ogarkova, qui est journaliste pour le département international de l'Ukraine Crisis Media Center. Et normalement, elle est à Kiev, la capitale, mais elle se trouve dans l'ouest du pays. Et vous le savez aussi que l'Ukraine a amorcé son enquête pour documenter les crimes de guerre, qui est un processus long, complexe, afin d'identifier les responsables de ces massacres. Le président Zelensky disait hier aux Nations Unies, les Russes ont égorgé des civils, ont assassiné des hommes, ont violé des femmes devant leurs propres enfants. Ce sont des massacres qui n'ont aucun sens. Et les Nations Unies, qui, avouons-le, jouent un rôle assez passif depuis le début de cette guerre. On se serait peut-être attendu à une prise d'opposition beaucoup plus importante, ou en tout cas un rôle davantage axé sur, disons, une présence diplomatique forte, ce qui n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de pays, d'ailleurs, qui dénoncent le côté passif des Nations Unies dans ce conflit. Très bien, on revient sur le scandale du centre de soins de longue durée Aeron. Hier, Thomas Gerbet de La Presse nous apprenait qu'il y avait échange de courriels, donc d'informations, à la fin du mois de mars, donc bien avant la vision et la version officielle du gouvernement concernant ce qui se passait dans ce centre. Et c'est précisément à 20h11, le 29 mars, que la sous-ministre responsable des aînés, Nathalie Rosebush, écrit à la chef de cabinet de Marguerite Blais en disant que ce qui se passe dans ce centre, c'est extrêmement préoccupant. Les employés ont été en contact avec un cas positif. On leur dit de s'isoler. Il y a presque plus de personnel pour prendre soin des 154 résidents. Bref, ça va mal. C'est une crise. Le spin gouvernemental hier, on va appeler ça comme ça, là, c'est de dire, oui, mais regardez, là, c'est écrit que la bureaucratie s'en occupe. Le CIUS de l'Ouest a pris charge du dossier. Je me sens rassuré. C'est ce que a dit Marguerite Blais. Et Mme McCann, qui n'a pas formulé de réponse, nous renvoie son témoignage. La conclusion, c'est que le politique veut d'abord être rassuré par la machine et pas nécessairement savoir ce qui se passe. Si vous êtes ministre des aînés, puis qu'on vous explique que dans une résidence, c'est la crise, que le personnel disparaît, que la sous-ministre s'inquiète, vous prenez quoi? 10 jours pour découvrir que dans The Gazette, on a une enquête qui montre que c'est une horreur, c'est l'hécatombe. Elle fait quoi pendant 10 jours, la ministre? Elle est rassurée parce que la bureaucratie lui a dit « tout va bien ». Et à différents moments, on se rend compte qu'on a sonné l'alerte. Est-ce que le premier ministre du Québec le savait? Il dit que non. C'est encore plus inquiétant. Mais que la ministre responsable des aînés n'a pas tenté d'avoir un suivi, n'a pas posé des questions, elle qui aime beaucoup aller se promener dans les résidences pour dire à quel point c'est fantastique, il y a quelque chose d'un petit peu gênant dans ça. Et même chose pour la ministre McCann. Je fais entendre, parce que la presse revient là-dessus, Katia Gagnon en parle ce matin. Et dans la presse, donc, vous retrouvez un extrait d'un appel téléphonique fait par le conjoint de la propriétaire de Aeron. La propriétaire, c'est Samantha Chouari, qui, elle, avait déjà logé un appel. Et là, le conjoint téléphone à nouveau au 811 pour dire là, faites de quoi, ça va mal.
La situation est urgente. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse du dépistage ici sur place. Le monde sont à mobilité réduite. On peut pas les transporter à l'hôpital. J'ai besoin de contrôler cette place-là. Là.
Oui, mais monsieur, c'est la santé publique là, qui libère des gens. Là, ce que vous me dites, c'est que vous m'avez dit que vous avez parlé à qui? Parce que là,
on a parlé à santé publique, on a parlé au CIUS, on a parlé à tous les représentants du gouvernement.
Là, va falloir comme... J'entends que vous êtes dans l'urgence là actuellement là, mais l'urgence, on c'est pas une question de minutes ou d'heures là, ok? Il y a pas un incendie là actuellement. On veut, il y a de la boucane, mais il y a pas d'incendie. Comprenez-vous?
Ben, je ne sais pas. Je suis pas vraiment d'accord en accord avec le fait que vous dites qu'il y a de la boucane.
Ce que je veux vous dire, moi, là, j'ai mon chapeau d'infirmière. C'est pas moi qui ai la santé publique. J'essaie de vous aider à savoir quel chemin vous avez pris pour que quelqu'un a basculé votre appel chez moi.
On va être clair, là. On n'a pas affaire à des gestionnaires expérimentés de ce centre privé, puis des gens qui avaient toutes les compétences. D'ailleurs, ça a été soulevé à l'enquête du coroner de Guyane Kamed. Et elle ajoute également qu'il y a eu des conflits larvés entre la bureaucratie de la santé, le CIUS, et également le centre en question. Puis pendant ce temps-là, je cite la coroner, il y a des gens qui mouraient. Alors là, je comprends le spin de Québec en disant « Nous, on a fait ce qu'on devait faire, puis j'ai pas de remords », dit Mme Blais. Je m'excuse, là, mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Là, je comprends qu'elle se représente pas, là. Mais pendant 10 jours, il s'est passé quoi? La sous-ministre responsable, Yvan Gendron, qui d'ailleurs a pris le bord de la porte en même temps que Daniel Mécan, faut juste s'en rappeler, la ministre Mécan. Qu'est-ce que ces gens-là savaient, à quel moment ils l'ont su, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis comment se fait-il que pendant 10 jours, ça a été la crise? Je vais en parler avec Katia Gagnon tantôt, qui, avec ses collègues Ariane Lacourcière et Gabriel Duchesne, ont écrit ce livre à lire sur cette période de la pandémie. Mais il s'est passé quoi? Les gens mouraient. Il y a des témoignages dans ce bouquin-là. Puis on regarde ça, puis on dit, mais ça n'a aucun sens. Et je rappelle ce que je retiens du message du spin de la CAQ hier. Nous, on veut être rassurés. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe. On ne pose pas trop de questions de la part de Mme Blais et de Mme Mécan. On veut juste vous nous rassurer. Parfait, c'est réglé. Merci, bonsoir. Dossier COVID maintenant. D'abord, on va parler avec le directeur national de la santé publique un peu plus tard, mais il y aura, et ça c'était prévu, là, jusqu'à la fin du mois d'avril, l'imposition qui est maintenue, donc l'obligation de porter le masque dans certains endroits publics. Mais entre vous et moi, c'est respecté à, disons, dosage variable. Catherine me parlait de spectacles là, où tu as souvent la moitié de la salle où les gens n'ont pas de masque. Mais bref, on demande de garder ça parce que les cas sont nombreux. Il y a encore eu hier une hausse des hospitalisations. Et puis, pour ce qui est de la vaccination, la quatrième dose qui sera offerte pour les 60 ans et plus à compter de lundi prochain, donc 11 avril. Je le sais, là, je le vois, le débat, là, puis il y a beaucoup de gens qui se disent il y a des directives contradictoires, on n'est pas capable d'avoir un portrait juste. Ce que l'on sait, c'est que dans nos entourages respectifs, il y a de plus en plus de gens qui ont la COVID. Avec, dans la grande majorité des cas, des symptômes qui sont mineurs ou en tout cas sous contrôle. C'est le premier constat qu'on peut faire. Le deuxième constat, c'est un peu de confusion concernant d'abord la pratique. Quelqu'un qui a des symptômes, puis on se rend compte là, que tu as des symptômes, puis ton premier test va être négatif, puis je disais entre autres encore ce matin dans De Gazette, passe un autre, parce que l'autre après va probablement t'indiquer que t'es positif. C'est comme si le test rapide prenait un peu de temps à détecter la présence de la COVID. Donc, t'es supposé être 5 jours isolé chez vous, pas de contact, puis dès que t'as pas de symptômes après 5 jours, on dit, ben tu peux retourner, exemple, en milieu de travail, mais là, tu portes le masque, puis tu gardes la distance. Puis il y a des gens qui comprennent pas trop ça, là. Puis qui se demandent pourquoi c'est pas 10 jours. Puis il y a des employeurs qui décident que c'est 10 jours que tu seras à l'extérieur. J'en parlais avec le docteur Boileau tantôt. Alors, puis il y a le docteur Fauci qui a dit aux États-Unis qu'il a l'impression qu'on est pas mal sorti du bois. Qu'il y aura encore des cas, mais que on peut penser que le pire est vraiment derrière nous. Puis je le sais, là, quand je regarde un peu les réseaux sociaux, il y a des militants qui probablement voudraient qu'on soit en confinement encore, puis qui comprennent pas, puis que c'est pas assez raide comme mesure, puis d'autres qui, comme Éric Duhaime, qui considèrent que il reste quoi, 2 provinces au Canada, là, sauf erreur, là. Je sais que l'Île-du-Prince-Édouard a repoussé la fin du port du masque obligatoire, puis le Québec, alors que d'autres provinces ont décidé de lever l'interdiction. Et pour ce qui est de la quatrième dose du vaccin, il y a une étude israélienne qui est publiée ce matin, qui dit en gros que c'est efficace contre Omicron et contre ses variants, mais que l'effet disparaît assez rapidement, après quelques semaines, semble-t-il. Donc, quand vient le moment de prendre cette quatrième dose, il y a peut-être une certaine réflexion à faire. Rapidement, dans les autres nouvelles, la presse nous dit ce matin concernant les entraîneurs de basketball de l'école secondaire Saint-Laurent qui auraient abusé, là, ils font face à des accusations de nature sexuelle sur des jeunes joueuses. Là, ça a l'air que l'enquête, c'est assez flou, qu'on se demande qui doit appeler qui. Il y a un enquêteur qui est nommé pour faire la lumière. Le syndicat cherche de l'info. Et disons qu'on se demande un peu si c'est une enquête sérieuse. Comment veux-tu aller chercher l'info si tu n'es pas capable? Par exemple, si tu en as, là, s'il y a des profs qui peuvent apporter des éléments de preuve, on leur dit pas qui est en charge de l'enquête. Et juste pour vous dire, l'image qu'on a vue hier à Québec, c'est assez pas pire dans le fond. Éric Duhaime annonce sa candidature dans Chauveau. 500 personnes. Puis tout le monde est là, là. Puis il est de bonne humeur, puis il y en a la majorité pas de masque. Lui en a un, puis il se promène, puis Casabonne est là, puis vous avez Mme Samson, puis lui, il dit, votre tramway va vous sortir ça. Puis c'est un comté caquiste, majorité de 10 000, qui probablement, peut-être, si la tendance se maintient, va basculer. Puis à l'autre bout, vous avez 500 personnes à Québec dans une salle organisée par Québec solidaire pour faire la promotion du tramway. Fameux tramway. En parlant du tramway, hier, le premier ministre, M. Legault, a dit il faut qu'il y ait acceptabilité sociale. Le ministre Julien, le ricaneur, a dit c'est 50 plus 1, 50 % plus 1. Mais comment tu détermines que le projet, là, la population y adhère? Tu fais un sondage, tu fais un référendum? Tu parles aux gens de Québec, tu parles à la banlieue, tu parles à qui? Puis réponse du premier ministre, ça c'est dans la cour du maire de Québec. Personne parle de consultation sur le REM de l'Est. Personne nous dit qu'il faut que ça soit, comme à Québec, acceptable sur le plan social. Puis j'en parlais avec ma productrice hier, je me souviens pas d'un projet d'infrastructure de transport qui fait l'objet de ce type de démarche-là. Donc il y aura un décret aujourd'hui. Puis on pourra voir la suite des choses.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Faisons un peu le bilan de la COVID ce matin. Il y a comme deux angles importants. D'abord, les Québécois vont porter le masque dans les endroits publics au moins jusqu'au 30 avril, Et la quatrième dose est offerte graduellement maintenant aux gens de 70 ans. Puis lundi prochain, les gens de 60 ans pourront également obtenir cette quatrième dose. Le directeur national de santé publique est avec nous, Dr. Luc Boileau. Dr. Boileau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je vais commencer d'abord par la décision là, de repousser jusqu'au 30 avril la date là, pour ce qui est de l'obligation de porter le masque. Beaucoup d'auditeurs se disent l'île du Prince-Édouard a décidé d'étirer ça aussi, mais ailleurs au pays, ailleurs au Canada, on n'est pas du tout dans ça. Qu'est-ce qui différencie le Québec des autres provinces canadiennes?
Bien, je pense que, je vais être très franc avec vous, là, je pense que les directeurs ou les responsables de la santé publique des autres provinces souhaiteraient avoir cette mesure-là. Ils ont toutefois pris des décisions plus rapidement en faisant en sorte que le masque ne soit plus obligatoire déjà depuis plusieurs journées, quelques semaines pour plusieurs provinces, et de le ramener c'est quelque chose qui est plus difficile dans leur propre contexte. Nous, ici, on l'avait dit, là, qu'on voulait aller jusqu'à la mi-avril. On aurait souhaité l'enlever avant. Et honnêtement, moi, j'avais l'impression qu'on pouvait l'enlever avant quand je regardais le paysage évoluer. Mais même, on savait qu'il était pour avoir une hausse. Cette hausse-ci, elle est plus forte, sans doute, dans plusieurs régions. Et ça s'entoure autour de Montréal et à Montréal aussi. Alors, on se retrouve dans une situation où il faut le reconsidérer. Et puis, on a une population qui est peut-être un petit peu plus âgée et qui a aussi un système de soins qui, je vous dirais pas, qui est fragile. Là, je pense que tout le monde est capable de dire ça, soi-même, sous plusieurs angles, mais faut pas exagérer non plus sur la capacité du système de soins à recevoir des patients. Alors, d'allonger ça de 2 semaines, je sais que c'est pas agréable, puis que la plupart des gens souhaitaient vraiment pouvoir se libérer de cela, mais c'est pas un effort colossal pour un avantage qui va être vraiment important pendant les quelques prochaines 2-3 semaines. Puis avec ça, on devrait s'en sortir plus rapidement.
Vous pensez que les autres directeurs de santé publique à travers le Canada regrettent qu'ils sont allés trop vite, puis que s'ils avaient une fenêtre pour changer d'idée, ils le feraient?
Moi, je crois que les échanges que j'ai avec certains montrent qu'ils souhaiteraient remettre quelques mesures. Comme ici aussi, il y a des gens qui suggéraient quelques mesures plus dures, là. Mais il n'est pas question de faire ça. C'est pas une question de on peut plus faire ça. C'est une question que on n'a pas besoin de faire ça. La plupart des gens sont vaccinés. Puis ce qu'on a besoin, c'est d'intégrer pour nos comportements le fait de considérer qu'on est vraiment contagieux jusqu'à 10 jours, là, pour la plupart d'entre nous, et d'avoir des comportements qui font en sorte qu'on n'expose pas ceux qui sont plus à risque ou que les plus à risque ne s'exposent pas eux-mêmes à des complications de ce virus-là. Alors, s'il faut mettre un paquet de mesures pour empêcher ça, on n'y arrivera jamais. Là. Je pense que ça fait 2 ans, je pense que les gens commencent à le savoir et à comprendre, mais malheureusement, ce virus-là est très, très contagieux et moins agressif que ceux qu'on a connus dans les vagues précédentes. Là, il s'apparente plus à l'Omicron, mais il est quand même très, très contagieux. Alors, faut rester vigilant, puis avec ça, je pense qu'on va s'en sortir rapidement.
OK. Parlez-moi de ce qui se passe dans les écoles. J'ai des profs qui m'écrivent en disant que régulièrement, il manque un bon nombre d'élèves, des élèves qui ou parce que ça vient de la famille ou peu importe, mais qui se retrouvent avec des symptômes, donc qui sont absents d'un 5 jours, ils reviennent. C'est quoi le portrait? Qu'est-ce que vous savez de la situation dans les écoles du Québec?
Bien, on sait que ça augmente, comme ça avait augmenté très, très rapidement au mois de décembre. Là, ça continue à augmenter. Les derniers chiffres qui sont révélés la semaine passée, mais là, on va avoir les chiffres de hier, mardi, plus tard dans la journée. Mais on le sait que ça continue à augmenter. On n'est pas au même niveau qu'on était au mois de janvier. Mais vous savez, et c'est une bonne question que vous posez là, parce que il y en a plusieurs qui nous disent, on devrait remettre le masque en classe. D'abord, le masque en classe, c'est une chose qui peut avoir un effet pas nécessairement positif pour les enfants, puis surtout ceux qui ont des difficultés d'apprentissage et de toutes sortes de nature, d'une part. D'autre part, c'est pas à l'école qu'on l'attrape. C'est pas dans la classe qu'on l'attrape. Ça s'attrape vraiment dans la communauté. Et vous n'avez pas idée du nombre de situations où les enfants se retrouvent, les jeunes se retrouvent ensemble, faire des parties, toutes sortes de choses. Évidemment, ils se protègent pas trop, là, mais on peut pas leur reprocher ça non plus, mais c'est vraiment dans la communauté que ça se passe. Alors, c'est le reflet de ce qui se passe dans la communauté, et ça va finir par baisser. Et chez les enfants, l'énorme avantage, c'est que pour l'immense majorité, ça donne pas des complications graves, et tant mieux. Puis une bonne partie des enfants sont vaccinés, surtout au secondaire, là, vous le savez. Alors, c'est quelque chose qui est un peu dans l'état des lieux, là, mais pour lesquels on n'a pas à s'inquiéter outre mesure.
OK. Et là, on en a déjà parlé, vous et moi, là, quand on a des symptômes, puis qu'on finit par avoir une réponse positive, qu'on a le virus, vous avez dit, la règle, c'est 5 jours, et après 5 jours, donc isolé, après 5 jours, s'il n'y a pas de symptômes, on peut retourner, exemple, en milieu de travail, porter un masque, avoir les mesures. Bref, on peut reprendre une vie normale après 5 jours.
C'est pas tout à fait
non.
Ça. Puis je veux pas tordre cette guenille-là encore trop, mais mettons ça clair. Médicalement parlant, là, en tout cas physiologiquement parlant, là, je vais vous dire ça comme ça, le virus, lorsqu'on l'a et qu'on a développé la maladie, on va être contagieux pendant 10 jours potentiellement. Il y en a qui vont être moins contagieux au bout de 5-6 jours, là, mais mettons que les études montrent que si on veut atteindre la grande, grande majorité des gens non contagieux, il faut attendre 10 jours, d'une part. D'autre part, c'est que quand on dit qu'il est contagieux 10 jours, potentiellement contagieux 10 jours, c'est qu'on invite les gens à vraiment s'isoler les 5 premières journées, parce que là, on le sait qu'il est très, très contagieux pendant les 5 premières journées. Les 5 autres, il l'est encore pour la plupart, comme je viens de le dire,
okay,
mais pas la totalité. Pendant les 5 autres journées qui suivent, on reprend des activités, mais pas une vie normale. C'est-à-dire, on ne va pas, okay, au restaurant, on ne va pas au spectacle, on ne va pas voir des amis, on ne va pas d'un party, on ne va pas danser, on ne va pas chanter dans un karaoké, on ne va pas voir grand-maman, on ne va pas voir tout ça.
Mais on peut aller travailler.
Avec le masque. Oui, on peut aller travailler, mais encore là, quand on va travailler, on porte le masque tout le temps. Puis même, vous savez, les employés de la santé qui reviennent à ce moment-là, ils portent le masque. Même les enfants, là, vous parliez des enfants, on, ouais, porte le masque. On ne mange pas avec les autres en enlevant le masque. C'est là où on le contracte, où on le donne plutôt. Alors, c'est vraiment un 5 jours de plus où est-ce qu'on peut vaquer à des activités, mais il faut garder toujours à l'esprit qu'on est potentiellement contagieux pendant 10 jours. Et après 10 jours, là, c'est life again, là, dans le sens qu'il n'y a plus de soucis, là.
OK. Est-ce que c'est vrai que dans le réseau de la santé, quand un employé, une infirmière, par exemple, positif, automatiquement en congé chez elle 10 jours?
Dans le réseau de la santé, si quelqu'un est en... C'est-à-dire, il y a 2 choses. Là. Quelqu'un qui va être en contact avec un cas, évidemment, on va le vérifier. Mais comme vous dites, si la personne est positive, elle s'en va à la maison pour 10 jours. Toutefois, ce qu'on est capable de faire, compte tenu de ce que je vous ai dit, c'est qu'au terme de 5 jours, on leur demande, faites un test à la maison. Faites un test pour voir s'il est négatif. S'il est négatif, vous revenez, on refait un autre test tout de suite, juste pour vérifier s'il est bien négatif. Et la personne reprend son activité, mais avec un N95 et en prenant exactement ce que je vous ai dit comme mesure, là, c'est en n'allant pas à la cafétéria avec les collègues, puis enlever le masque, puis parler devant eux autres. Ils doivent protéger beaucoup leurs activités pendant les jours qui suivent, et on les envoie pas dans les unités, okay, par exemple, d'hémato-oncologie ou de greffe ou des choses comme ça.
Parfait. La 4e dose, je lis ce matin une étude en Israël qui dit que cette 4e dose, là, elle est très efficace contre le nouveau variant. Par contre, efficacité de courte durée. C'est vrai, ça?
Ben, les études internationales sont nombreuses. En Israël, c'est un autre portrait. C'est pas qu'ils sont différents comme êtres humains, là, évidemment. C'est juste que ils ont eu des doses assez rapprochées avec le temps. Alors, il faut juste essayer de comparer les modèles de vaccination l'un à l'autre. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la 4e dose, elle est efficace pour remonter l'immunité des personnes qui l'auraient perdue. Mais actuellement, au Québec, toutes les gens qui ont eu une 3e dose, la plupart l'ont eu au mois de décembre et au mois de janvier. Il y en a qui l'ont eu un peu avant, d'autres un peu après, évidemment. Alors, on est à 3-4 mois là, de distance de ça. L'idée, c'est que cette efficacité-là demeure au moins 4 mois. Elle demeure probablement au moins 5 mois, sinon 6. Mais pour les gens qui l'ont eu en octobre, il y a un certain nombre qui l'ont eu en octobre, en novembre, tout ça, là, on est rendu à une distance où c'est légitime de rappeler le fait qu'on devrait profiter de la 4e dose. Pour les autres, qu'on ouvre pour les, par exemple, 80 ans, 70, 60 ans, là, dans quelques jours à peine, on les invite à venir chercher leur dose s'ils le veulent. Moi, c'est pas une recommandation de dire courez après, là, mais on vous invite à venir, mais il faut que ça fasse au moins 3 mois que vous ayez, okay, eu votre dernier vaccin, sinon ça sert à rien. Là.
Bon, là, j'ai une autre question, Dr. Boileau. Les gens, quand on regarde autour, qui ont développé depuis Noël, qui ont eu les symptômes de la COVID et tout ça, la plupart, en tout cas, moi, je regarde dans mon entourage, sont des gens vaccinés pleinement, qui ont eu des symptômes, mais rien de majeur pour la plupart des cas. Puis la question que tous ces gens-là me posent, quand j'ai peu de symptômes, est-ce que je pourrais souffrir quand même de ce qu'on appelle la COVID longue?
Bon, ça, c'est une bien bonne question, parce que il y a des études qui nous montrent que oui, on peut quand même souffrir de la COVID longue. Même, je vous dirais qu'il y a des cas où les symptômes ont été très légers et après, ils se sont présentés avec un syndrome de COVID longue. Mais c'est loin d'être la majorité. Les gens, s'ils veulent prévenir le risque d'avoir une COVID longue, c'est d'être bien vaccinés. Ça, c'est clair, c'est documenté très, très solidement. Et on a de très solides expertises, d'ailleurs, au Québec autour de ces questions-là. Alors, À votre question, la réponse, c'est oui, c'est possible, mais c'est vraiment pas fréquent. Le plus fréquent, c'est lorsque on n'est pas vacciné et qu'on a une maladie qui est grave. Et encore plus, bien sûr, vous imaginez que plus les gens sont hospitalisés, et même aux soins intensifs, plus la probabilité d'avoir une COVID longue augmente. Alors, donc, le meilleur geste à faire, c'est d'être vacciné. Et bien vacciné. Et puis même, je vais vous dire que un des traitements de la COVID longue là, qui est donné, là, c'est de donner des vaccins. Alors, pour les gens qui n'étaient pas vaccinés et qui refusaient le vaccin, quand ils font une COVID longue puis qu'ils vivent ça, là, il n'y a vraiment pas de souci d'accepter le vaccin parce que ça, c'est pour une raison de physiologie que je ne me mettrai pas à expliquer. Mm-hmm. Ça peut vraiment améliorer leur situation.
J'ai une dernière question. La semaine dernière, je parlais avec le docteur Veillette qui disait, bon, il faut garder le masque et tout ça, mais pour lui, si on veut avoir un masque vraiment efficace, là, c'est le fameux N95 ou de la même famille, puis parce que le masque de procédure, c'est pas suffisant, puis que si on prend ça, on devrait en mettre deux. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus?
Je pense que plusieurs personnes ont des opinions différentes sur cela. C'est pas une grande controverse scientifique. Ce qui est clair, c'est que le N95 a des propriétés qui sont très efficaces dans des contextes où on veut vraiment protéger les autres autour de nous. Et dans des contextes hospitaliers, là, c'est bien sûr valorisé et revendiqué. Puis je dois vous dire que même là, c'est un défi parce qu'il y a pas mal de monde, des employés de la santé qui veulent pas le porter parce que c'est pas facile de porter un N95, d'autant qu'il faut bien le porter puis le mesurer pour qu'il y a ce qu'on appelle un fit test avant. Alors, à la question que vous me posez, le masque de procédure a toute l'efficacité requise pour les utilisations qu'on en fait, notamment dans la communauté. Là, les gens n'accepteraient pas d'avoir des N95, vous n'avez pas idée. Il faut vraiment porter ça pendant une journée, vous allez comprendre. Là, puis allez voir aux soins intensifs ceux qui travaillent là, comment est-ce qu'ils... C'est pas facile de porter un N95 tout le temps. Alors, il y en a qui... Moi, j'en ai vu là, dans les rues porter des N95 occasionnellement, mais c'est vraiment... C'est pas la recommandation de la santé publique. Là.
Merci, Dr Boileau. Bonne journée.
Monsieur Arcan, merci encore.
Au revoir.
Bonne journée à vous.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Le président ukrainien Zelensky est intervenu hier, vous le savez, au Conseil de sécurité des Nations unies. Son message a été très clair. D'abord, il a décrit les horreurs qu'il a lui-même constatées dans certaines villes du pays. Il souhaite que la Russie soit tenue responsable pour ses crimes de guerre. Les pires, dit-il, depuis la Grande Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il a décrit, comme je disais tantôt, des scènes macabres d'enfants qui ont vu leur mère être violée, assassinée, des civils qu'on peut compter sur la rue, les corps, on l'a vu avec les images satellites. Ce matin, je vais faire le point avec Arnaud Comte, qui est grand reporter à France Télévisions, qui s'est d'ailleurs déplacé pour couvrir l'horreur à Boutcha, qui est de retour dans la capitale de Kiev. Arnaud Comte, bonjour.
Bonjour.
Peut-être d'abord nous dire, comme reporter, qu'est-ce que vous avez vu, vous, à Boutcha?
Écoutez, à Boutcha, quand on est entré dans cette ville reprise par l'armée ukrainienne, on a été figé d'effroi. Alors, on a l'habitude de couvrir des guerres avec Stéphane Guimau qui m'accompagnait. Une guerre, c'est toujours difficile. Les images sont toujours difficiles. Mais là, je dirais qu'elles étaient ces images plus insupportables que d'habitude, parce que on avait vraiment l'impression que ces civils avaient été fauchés dans leur quotidien, certes dans leur quotidien en guerre, mais sur leur vélo, par exemple, pour deux civils de cette rue-là, un autre devant son portail, devant sa maison, comme si finalement pour eux la mort les avait fauchés là d'un coup, par un tir d'artillerie, par un tir de char, ou alors par un tir de Kalachnikov. Ça, on ne le sait pas. Et il faudra sans doute du temps pour le savoir. Ce sera le travail des enquêteurs internationaux qui vont essayer de documenter un maximum de preuves pour établir les circonstances exactes de la mort de ces civils, même si vous savez évidemment que sur une zone de conflit, sur une ligne de front, il est toujours très compliqué, même a posteriori, de déterminer exactement ce qui s'est passé.
Et on peut se dire que si ces massacres ont eu lieu à Boutcha, on peut penser qu'il y en a eu d'autres dans d'autres villes de l'Ukraine.
Évidemment, évidemment, nous sommes rendus à Irpin, nous sommes rendus à Boutcha, dans d'autres communes aussi, un peu plus loin, une cinquantaine de kilomètres de Kiev. Et ce que nous racontent les habitants, les récits sont tous assez semblables. Évidemment, nous avons vu de nos propres yeux des victimes ici et là qui avaient été abattues, sans doute par les forces russes ou par les tirs d'artillerie. Et la crainte, effectivement, c'est que plus les forces russes dans ces zones-là vont se retirer, en tout cas plus ces territoires reconquis vont être inspectés, plus évidemment on craint de pouvoir découvrir des crimes de guerre.
Maintenant, parlons des opérations militaires. Il y a certaines informations qui veulent qu'une offensive russe soit imminente, que, par exemple, on serait probablement à une étape d'envoyer des forces fraîches en territoire ukrainien. Qu'est-ce qu'on sait ce matin sur, justement, le déploiement russe?
Alors là, on a l'impression que les forces qui tentaient de prendre en étau Kiev se sont retirées et que l'offensive désormais de Moscou en Ukraine va se contenter de sécuriser les territoires à l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire le Donbass, mais également cette ville portuaire de Mariupol au sud qui permettrait aux forces russes de prendre le contrôle total et exclusif de la mer d'Azov et de la mer Noire. Donc il y a sans doute une volonté à terme de la part de la Russie de couper en deux ce territoire ukrainien. Pour l'instant, Kiev respire un peu, mais le reste du pays, évidemment, est en alerte et risque de connaître des semaines et des mois très sombres.
Merci beaucoup, Arnaud Comte, grand reporter à France Télévisions. Il est de retour à Kiev, la capitale. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on peut noter à travers le monde, c'est-à-dire on s'attend à ce que c'est un conflit qui va encore durer longtemps, longtemps, longtemps. Pour ce qui est des discussions, des pourparlers, on sait que Moscou prétend, quand on parle de ces massacres à Boutcha, que ce sont des complots concoctés par l'Occident pour discréditer la Russie et que tout cela nuit évidemment à l'allure des négociations. Plus tôt ce matin, j'ai parlé avec Tetiana Ogarkova. Et justement, on parlait de ces autres villes. On a beaucoup parlé de Mariupol, de Boutcha, mais d'autres villes donc du pays qui ont été touchées. On parle des infrastructures, mais des civils aussi qui ont été assassinés.
Ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui dans la banlieue nord de Kiev, dans tout le territoire qui s'étend de Kiev jusqu'à la frontière biélorusse, notamment par exemple la ville de Borodyanka, qui a connu encore plus de cruauté russe. Et on découvre même plus qu'à Boutcha les corps de civils morts, torturés, aussi avec le monument de Taras Shevchenko, c'est le poète national, le poète fondateur en quelque sorte de la nation ukrainienne au 19e siècle. Donc on découvre ce monument dévasté. On découvre aussi les atrocités sur la route de Jytomyr et dans une dizaine, on va dire, de villes et villages dans la région de Kiev et de Jytomyr. Donc partout, malheureusement, les mêmes images, les mêmes tortures, la même méthode. Et donc, on craint bien sûr de découvrir exactement la même chose dans tous les territoires d'Ukraine qui étaient où l'armée russe avait mis les pieds. Donc Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, avait tout raison de remettre en question le droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque justement on voit ce carnage au centre même de l'Europe et l'OPI, l'État qui a le droit de veto, qui fait part du Conseil de sécurité, a droit de continuer son agression. On a fait cet appel plusieurs fois au cours de 8 ans après l'annexion de la Crimée. On était moins attendu qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, bien dramatiquement, mais on parle, Volodymyr Zelensky parle les images à l'appui. Donc c'est les résultats de il a dit que le droit de veto se transforme en droit de la mort, donc de commettre la mort au centre même de l'Europe, de la civilisation européenne en fait, à côté de Kiev.
Merci, voilà, c'était Tetiana Ogarkova qui est journaliste et elle est normalement aussi dans la capitale, mais elle se trouve toujours dans l'ouest du pays.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Le point sur la guerre en Ukraine. D'abord, le président Zelensky qui a devant les Nations Unies, décrit des massacres dans son pays. Il a dit que ça n'avait aucun sens, notamment que la Russie puisse avoir un droit de veto, alors que la Russie est l'agresseur de l'Ukraine, qu'il a comparé d'ailleurs à l'État islamique compte tenu des massacres qui ont touché sa population. Et on va faire le point ce matin avec Tetiana Ogarkova, notamment parce qu'on a beaucoup parlé de Mariupol, on a beaucoup parlé de Boutcha, mais Tetiana, il y a d'autres villes qui ont été lourdement touchées, des infrastructures, mais aussi des civils.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Justement, ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui dans la banlieue nord de Kiev, dans tout le territoire qui s'étend de Kiev jusqu'à la frontière biélorusse, notamment par exemple la ville de Borodianka, qui a connu encore plus de cruauté russe. Et on découvre même plus qu'à Boutcha les corps de civils morts, torturés, aussi avec le monument de Taras Shevchenko, c'est le poète national, le poète fondateur en quelque sorte de la nation ukrainienne au 19e siècle. Donc on découvre ce monument dévasté. On découvre aussi les atrocités sur la route de Jytomyr et dans une dizaine, on va dire, de villes et villages dans la région de Kiev et de Jytomyr. Donc partout, malheureusement, les mêmes images, les mêmes tortures, la même méthode. Et donc, on craint bien sûr de découvrir exactement la même chose dans tous les territoires d'Ukraine qui étaient où l'armée russe avait mis les pieds. Donc Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, avait tout raison de remettre en question le droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque justement on voit ce carnage au centre même de l'Europe et l'OPI, l'État qui a le droit de veto, qui fait part du Conseil de sécurité, a droit de continuer son agression. On a fait cet appel plusieurs fois au cours de 8 ans après l'annexion de la Crimée. On était moins attendus qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, bien dramatiquement, mais on parle, Volodymyr Zelensky parle les images à l'appui. Donc c'est les résultats il a dit que le droit de veto se transforme en droit de la mort, donc de commettre la mort au centre même de l'Europe, de la civilisation européenne en fait, à côté de Kiev.
Maintenant, Tetiana, parlez-nous aussi de ce qui se passe sur le plan militaire. Il y a toujours des frappes. Comment se déplacent les soldats russes?
Aujourd'hui, on constate que voilà, donc que l'armée ukrainienne a repris le contrôle, comme on dit, de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Donc là, c'est plus sécurisé, même si le territoire est miné. Mais ce que prépare la Russie, elle ne prépare beaucoup de surprises à l'est. Toujours, ils sont en train de ramasser des troupes à les préparer pour une attaque massive. Mais à la fois, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, selon la formation de l'état-major ukrainien, il y a des préparatifs qui se passent en Transnistrie. Transnistrie, c'est une enclave russe depuis 92, Transnistrie annexée de territoire moldave. Et donc, là, il y a une base militaire russe en ce moment qui n'est pas très nombreuse, mais qui est là. Et aujourd'hui, ils préparent des aéroports pour recevoir des avions russes avec, sans doute, on peut justement deviner, des parachutistes ou bien des machines militaires. Donc, ils peuvent continuer leur attaque, par exemple, en passant par Transnistrie vers Odessa, parce que Transnistrie, ça se trouve au sud. Donc, on peut imaginer qu'ils peuvent envisager une attaque sur le sud ukrainien en passant par le territoire de la Transnistrie. Donc c'est une chose qui est prise, qu'on doit prendre en compte. Ils peuvent ouvrir un deuxième front. En même temps, ils sont très actifs au sud de l'Ukraine, c'est-à-dire au niveau de Kherson. L'armée ukrainienne a réussi à libérer 3 villages hier, mais ce sont des villages. Kherson reste occupé, c'est une ville importante au sud, la seule ville en fait, la seule grande ville qui a tombé au cours des 42 jours de la guerre.
Merci beaucoup Tetiana, et puis on se donne rendez-vous à demain. Tetiana Ogarkova qui est journaliste pour le département international de l'Ukraine Crisis Media Center, et normalement elle est à Kiev, la capitale, mais elle se trouve dans l'ouest du pays. Et vous le savez aussi que l'Ukraine a amorcé son enquête pour documenter les crimes de guerre, qui est un processus long, complexe, afin d'identifier les responsables de ces massacres. Le président Zelensky disait hier aux Nations Unies, les Russes ont égorgé des civils, ont assassiné des hommes, ont violé des femmes devant leurs propres enfants. Ce sont des massacres qui n'ont aucun sens Et les Nations unies, qui, avouons-le, jouent un rôle assez passif depuis le début de cette guerre. On se serait peut-être attendu à une prise de position beaucoup plus importante, ou en tout cas un rôle davantage axé sur, disons, une présence diplomatique forte, ce qui n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de pays, d'ailleurs, qui dénoncent le côté passif des Nations unies dans ce conflit.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On revient sur le scandale, sur l'hécatombe au centre de soins de longue durée Aaron. Hier, on vous le disait, Thomas Gerbet de Radio-Canada nous parlait justement d'un courriel qui démontrait que les ministres Marguerite Blais et McCann avaient été informés dès la fin mars de ce qui se passait à Aaron. Et message assez clair que la situation se détériorait, difficultés de personnel, nombre de cas. Et ça veut dire que pendant 10 jours, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et toujours les mêmes questions de base. Qui savait? Qui savait quoi? Comment on a géré ça? Et hier, le spin de Québec, c'était de dire, ben, comme le CIUS a pris ça entre ses mains, on s'est senti rassuré, puis on n'a pas poussé l'affaire plus loin. Ça soulève beaucoup de questions. Katia Gagnon est avec nous, et avec ses collègues Gabriel Duchesne et Ariane Lacourcière. D'abord, elles ont suivi ça, Aaron, et elles nous proposent depuis quelques semaines maintenant le livre 5060, l'hécatombe de la COVID-19 dans nos centres de soins de longue durée. Katia, bonjour.
Bonjour, Paul.
As-tu des réponses en partie à partir de ce que vous avez travaillé, ce qu'Aaron Derfell a fait, ce que Thomas Gerbet a fait? Pendant 10 jours, là, qui savait quoi, d'après toi?
Bon, c'est effectivement là, les couches de connaissances s'accumulent. Il y avait comme 3 niveaux, si on veut, Paul, de gens qui savaient ou savaient pas des choses. Donc, le premier niveau, c'est les hauts fonctionnaires. Monsieur Gendron, qui était le sous-ministre, Madame Opaterny, Madame Rosebush, qui étaient les sous-ministres associés. Ça, ces gens-là, c'est établi. Ils savaient parfaitement ce qui se passait dans ce centre-là. Ils l'ont appris le 29 mars au soir, après que la docteure Nadine Larente, qui était sur place et qui voyait la situation épouvantable dans laquelle les gens à Aaron étaient, a appelé le docteur Opaterny directement. Un an plus tard, la docteure Opaterny, elle a encore versé des larmes devant nous en évoquant cet appel-là. Donc, ils étaient parfaitement au courant, ces gens-là, de ce qui se passait dans la bâtisse. Ensuite de ça, deuxième étage, c'est les ministres. Madame McCann, Madame Blais. Qu'est-ce qu'elles savaient? Elles ont toujours dit qu'elles connaissaient l'existence d'une situation problématique à Aaron, depuis avant le 10 avril, là, elles ont, la date n'est pas précise. Là, ce qu'on a appris hier avec ce courriel-là, c'est que le 29 mars, Mme Rosebush les a notifiés de cette situation et il y a une petite couche qui s'ajoute là. Mme Rosebush leur dit « Il n'y a presque plus de personnel pour s'occuper des gens dans le CHSLD, la situation est... » Bref, ça va pas bien. Là. C'est clair dans ce courriel-là qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Cependant, Mme Rosebush dit tout de suite, mais le CIUS est sur place et assure les soins aux gens. Ça, c'est ce qu'on a appris hier avec ce courriel-là. Il y a une couche de connaissances, on va dire, de niveau de gravité qui s'est ajoutée. Et il y a le troisième étage, qui est le bureau du premier ministre. Il n'y a absolument rien, ni dans les témoignages, ni dans les documents déposés devant Mme Kamel, qui montrent que le bureau du premier ministre ou M. Legault lui-même était au courant de quoi que ce soit qui se passait à Aaron. Ils ont toujours dit qu'ils ont appris ça le 10 avril, et à date, il n'y a rien qui contredit ça.
OK, on va se concentrer sur la deuxième couche. Une fois que la sous-ministre informe la chef de cabinet de Mme Marguerite Blais,
oui,
et qu'en même temps, on termine en disant, le CIUS s'en occupe, il me semble, quand tu es ministre des aînés, tu fais le suivi.
C'est sûr. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le suivi qui a été fait de ces informations-là, tant par les ministres, je te dirais, que par les sous-ministres. Parce que M. Gendron, le sous-ministre, il était aussi, tu sais, il avait comme un petit peu les deux mains sur le volant dans cette crise-là, là, M. Gendron. Il est le sous-ministre à la santé. C'est lui qui gère tout ça. Donc, ni lui, ni Mme Blais, ni Mme McCann ne semblent avoir fait un gros suivi. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, en tout cas, qui semblent avoir été posées au CIUS, aux gens de Aaron, pour dire, bon, quelle est la situation là en date, je sais pas moi, du 1er avril, du 2 avril, du 3 avril, avant que la crise éclate dans le journal de Gazette. C'est sûr que il y a un trou, là. Hein? Depuis le départ, là, il y a un trou, puis on est... Personne personne est capable d'expliquer qui a demandé quoi à qui, quel suivi a été fait de ces informations-là qui étaient connues depuis le 29 mars. Puis je te rappelle, Paul, que le 29 mars, là, la situation est catastrophique à Erin quand la docteur la rentre dans l'endroit. Elle est tout aussi catastrophique 10, 12 jours plus tard, quand il y a d'autres soignants du CIUS de l'Ouest qui arrivent. Et pendant tout ce temps-là, là, tous ces jours-là, le CHSLD est en tutelle. C'est le CIUS qui est responsable de ce CHSLD-là. La majorité des morts, d'ailleurs, sont survenus dans cette période-là où le CIUS était responsable de l'établissement.
On va écouter un extrait, Katia, que vous présentez ce matin dans la presse plus. C'est le conjoint de Samantha Chouéry qui est copropriétaire, si on veut, de Erin. C'est un appel qui est logé par donc son conjoint. Il parle avec une infirmière du 8-1. C'est le 29 mars en après-midi. On écoute ça.
La situation est urgente. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse du dépistage ici sur place. Le monde sont à mobilité réduite. On peut pas les transporter à l'hôpital. J'ai besoin de contrôler cette place-là.
Oui, mais monsieur, c'est la santé publique là qui libère des gens là. Là, ce que vous me dites, c'est que vous m'avez dit que vous avez parlé à qui? Parce que là,
on a parlé à santé publique, on a parlé au CIUS, on a parlé à tous les représentants du gouvernement.
Va falloir comme j'entends que vous êtes dans l'urgence là actuellement là. Mais l'urgence, on c'est pas une question de minutes ou d'heures là. Ok? Il n'y a pas un incendie. Là. Actuellement, on veut... Il y a de la boucane, mais il n'y a pas d'incendie. Comprenez-vous?
Ben, je ne sais pas. Je suis pas vraiment d'accord en accord avec le fait que vous dites qu'il y a de la boucane.
Ce que je veux vous dire, moi, là, j'ai mon chapeau d'infirmière. C'est pas moi qui ai la santé publique. J'essaie de vous aider à savoir quel chemin vous avez pris pour que quelqu'un a basculé votre appel chez moi.
Bon, on n'est pas en train de dire que les gens de Erin, ce sont des gestionnaires parfaits, sauf qu'ils appellent là où ils peuvent, puis visiblement, il n'y a personne qui est capable d'apporter une réponse, là.
Effectivement. Il y a trois choses qu'on peut déduire de cet appel-là. La première, c'est que les gens de Erin étaient des gens extrêmement inexpérimentés comme propriétaires de CHSLD. Le CHSLD Erin était le seul CHSLD qu'il possédait. Ils avaient des résidences privées, mais là, dans un CHSLD, on est dans un autre niveau de soins puis de dépendance des gens. Donc, ils ont été rapidement dépassés par la situation. La deuxième chose, c'est comment ça se fait qu'un CHSLD en pleine pandémie n'est pas capable de rejoindre le CIUS de sa région pour dire au secours, aidez-nous et on a besoin d'aide rapidement. Puis l'évaluation que fait monsieur au 8-1, elle est parfaitement exacte. L'incendie, ça c'est le 29 mars cet appel-là, l'incendie, il est total dans cet établissement-là. C'est en train de brûler. Il y a des gens qui sont laissés dans leur lit, qui n'ont pas bu, qui n'ont pas mangé de la journée, qui sont dans leur couche souillée depuis des jours. C'est épouvantable, là. Donc, et la troisième chose, je m'en rappelle plus, Paul.
Non, mais moi, j'en ai une pour toi, par exemple, parce que comment peut-on prétendre le 30 mars que la situation est sous contrôle quand on a un appel comme ça le 29 mars alors que le feu est pris dans la place?
Bien, ça, c'est vraiment la question qui, à mon avis, est au centre des débats, là. C'est... Le CIUS a toujours lancé le message à tout le monde, à M. Gendron, à Mme Opaterni, aux ministres, qu'ils avaient la situation sous contrôle, et ce, dès le 29 mars. Or, dans les faits, si on regarde ce qui se passait sur le terrain dans cet établissement-là, c'est le contraire de la vérité. Ce n'est pas vrai. Il n'y avait aucune situation sous contrôle à Erin à ce moment-là. C'était vraiment... le bordel total dans cette place-là. Et pendant des jours encore, là, même le 9, le 10 avril, même après l'article de la Gazette, on n'avait pas le contrôle de cette situation-là. Les bénéficiaires, ils n'étaient pas pris en charge, puis il y en avait 150, je te le rappelle. Il y en a 47 qui sont morts.
Merci, Katia. Bonne journée.
Merci, Paul.
Au revoir. Katia Gagnon, donc, qui est co-auteur du livre 5060, l'hécatombe de la COVID-19 dans les centres de soins de longue durée. On va se résumer ce matin, là. D'abord, c'est un mensonge de prétendre que la situation était sous contrôle. Ça, c'est le message que le CIUS a envoyé aux politiques. D'abord à l'administration, sous-ministre, puis ensuite, message relayé. Donc, c'était pas vrai. Ça pouvait pas être sous contrôle le 30, ça l'était pas le 29. Puis ça l'était pas après. Deuxièmement, est-ce que Mme Blais, est-ce que Mme Mécan ont fait un suivi? Quand on vous informe qu'il y a un établissement où le personnel sort par les portes, que les patients sont laissés à eux-mêmes, quel suivi a été fait par la ministre responsable des aînés? Je dis bien responsable. Visiblement aucun. Puisque la machine lui dit que ça va bien alors que c'est pas vrai. Elle a quand même, pendant toutes ces journées-là, supposément, rien fait pour savoir si on avait trouvé du personnel, si les gens étaient soignés correctement à l'intérieur. Mme Blais, qui allait beaucoup faire des tournées de centres de soins de longue durée, n'a pas jugé bon. Ça s'appelle la responsabilité ou l'irresponsabilité ministérielle. Je rappelle aussi, pour les fins de la conversation, que Mme Mécan a été dégommée de la santé et que M. Gendron a été foutu à la porte du ministère de la Santé. Remarquez, foutu à la porte est un grand mot, comme les grands mandarins se font toujours récupérer quelque part dans la machine. Puis là, nous autres, on est supposés, parce qu'on n'a pas voulu faire une enquête publique, acheter le spin du gouvernement, qui consiste à nous dire nous étions rassurés, tout allait bien, pas de notre faute. Il y a sûrement, pour reprendre l'image de Katia Gagnon, un problème dans la machine bureaucratique, dans l'administration, dans les sous-ministres, puis il y a probablement aussi un maudit gros problème au niveau politique ministériel. Marguerite Blais et Daniel Mécan.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Rosemont, la petite patrie, l'arrondissement va imposer une nouvelle réglementation concernant la vitesse des véhicules dans les fameuses ruelles. Tout indique donc que ce sera 10 km/h ou moins. Il y a eu, malheureusement, vous le savez, encore des accidents, Outremont, Rosemont, la petite patrie. Et pour parler à des auditeurs, là, enfin ceux qui m'écrivent et qui m'expriment leurs inquiétudes de voir des véhicules, puis il y a comme peut-être deux phénomènes qu'on voit, des gens qui veulent échapper à un ralentissement, à une rue qui où ça roule au ralenti parce que, je sais pas, il y a un autobus scolaire, donc on pique par une ruelle, ça c'est un cas. Puis il y a des camions aussi qui circulent. Je fais le point avec le maire de l'arrondissement, François Limoges. Monsieur Limoges, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Donc, c'est ça, vous allez, je pense que c'est le premier arrondissement là où on va ramener la vitesse à 10 km/h ou moins.
Oui, effectivement, on est les premiers, puis on est bien contents. C'est, pour nous, c'est une mesure qui s'inscrit dans une stratégie globale de transformer les ruelles de voies publiques en milieu de vie.
OK. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
Bien, ce qui nous a amené, c'est effectivement, on est dans ce processus-là depuis des années de transformer les ruelles en milieu de vie, puis on veut aller plus loin. Alors, le 10 km/h, c'est une étape. Mais il y a d'autres étapes qui s'en viennent, là, qui vont suivre pendant tout le mandat, dont on veut faciliter la fermeture la fermeture partielle. On ferme jamais totalement les ruelles, mais quand il y a 4 entrées, on peut en fermer une ou deux. On veut faciliter ça pour qu'il n'y ait plus de ruelles fermées dans le mandat, pour qu'il y ait moins de circulation de transit. Hein, vous l'avez dit, des fois, il y a un autobus scolaire, il y a un feu rouge, les gens passent par la ruelle. C'est un phénomène qu'on veut éviter. On veut bonifier le programme des ruelles vertes pour que les gens puissent verdir davantage, donc transformer encore plus pour que ce soit toujours plus vert, plus accueillant, plus familial, plus intéressant. Alors, on a plein d'étapes qui s'en viennent comme ça pour bonifier les ruelles de Rosemont.
Bon, normalement, une ruelle devrait servir de voie d'accès au propriétaire ou au locataire qui veut retrouver son espace de stationnement là, qui est situé à l'arrière. Ça devrait servir à ça. C'est pas une voie de contournement, là.
Exactement. Et le stationnement, c'est un droit acquis. Mais le transit, c'est-à-dire les gens qui n'habitent pas là puis qui passent pour gagner quelques secondes, ça n'est pas acceptable. Et c'est ça qui cause massivement le sentiment d'insécurité des parents et des résidents riverains. Alors, c'est ça qu'on veut endiguer. Puis on va prendre toutes les mesures qu'il faut pour contraindre ce phénomène-là.
Quelles sont les autres mesures que vous avez en tête?
Bien, une des plus efficaces, c'est l'appropriation citoyenne. Quand les gens entrent avec un véhicule, même s'ils ont accès à leur stationnement, s'ils entrent puis qu'ils ont l'impression de rentrer chez quelqu'un, on voit des panneaux, on voit de la peinture, on voit des jouets, il y a un croque-livre, il y a des murales. Ça, on porte à faire attention. C'est pour ça qu'on veut tellement transformer les ruelles en milieu de vie, parce que c'est le signal qu'on envoie, c'est qu'on est chez des gens qui jouent, qui se promènent, qui se rassemblent. Alors, c'est la meilleure option, mais nous, on vient aider ça avec toutes sortes de réglementations, dont le 10 km/h,
okay,
dont les fermetures partielles, le programme des ruelles actives, le programme des ruelles vertes. Alors, on vient améliorer l'appropriation citoyenne, mais l'appropriation citoyenne, là, c'est le meilleur outil.
OK. Il y a combien de ruelles environ dans l'arrondissement?
Oh, il y en a beaucoup. J'ai pas le nombre exact avec moi, M. Arcand, okay, ce matin, mais ruelle verte, on est rendu à 140. On est parti de zéro il y a quelques années, on est rendu à 140. C'est un programme qui est extrêmement populaire.
Est-ce qu'il y a dans certaines ruelles une justification pour la présence, je sais pas, de camions de livraison, de camions de, je sais pas, de véhicules qui, de déneigement, par exemple, l'hiver? Est-ce qu'il y a des justifications pour que des véhicules plus massifs soient présents, passent dans les ruelles?
Quand c'est un phénomène de transit, on travaille activement à l'enlever. On avait une ruelle où il y avait 5 à 600 véhicules par jour, là, entre Saint-Vallier, Saint-Denis, Bélanger, Jean-Talon. Il y avait énormément de livraisons. Il y avait 5 commerces qui se faisaient livrer par l'arrière. Et on a travaillé à leur installer un débarcadère et à pouvoir fermer une partie de la ruelle pour que les camions n'empruntent plus la ruelle au complet. La plupart du temps, quand il y a des camions, c'est parce qu'il y a la livraison d'un ou plusieurs commerces. Quand ce n'est qu'une ruelle résidentielle, les camions ne sont pas censés être là, puis on va tout faire pour qu'ils ne soient pas là.
Ça demande, je dirais, plusieurs choses. Ça demande la vigilance des citoyens, d'une part, puis ça demande aussi une présence policière, en tout cas, peut-être à des moments plus stratégiques, parce que... ou je sais pas, une signalisation, je sais pas comment vous allez faire pour envoyer le message aux récalcitrants.
Ben, on fait pas le règlement pour la minorité de délinquants, là. On fait le règlement pour la majorité qui suit la réglementation, puis généralement ça marche. Quand on a abaissé la vitesse dans les rues résidentielles, on a vu un effet global de diminution de la vitesse dans les rues de Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, on est confiant là-dessus. Mais comme je vous dis, ce règlement-là n'est pas tout seul. Il vient avec une série de mesures pour que les gens transforment leur ruelle. Puis éventuellement, ce qu'on veut, c'est que ce soit des jardins, des terrains de jeu, des endroits où les gens peuvent se réunir. Les ruelles vertes, ça fait aussi que les gens se connaissent, puis ça met toute une vie dans la ruelle. Moi, j'ai vu un mariage dans une ruelle verte il y a quelques années. Alors, ça crée un sentiment de communauté. Puis ça, c'est plus important. C'est aussi important, peut-être pas plus, mais c'est aussi important que la réglementation qu'on vote parce que ça vient créer une dynamique où la ruelle, elle est animée puis il y a toujours des gens dedans.
Je vais vous raconter une anecdote qui date de plusieurs années puis ça montre que les mentalités ont un peu changé. Ça se passait pas dans votre arrondissement, un autre, où des citoyens avaient pris possession de leur ruelle comme ça, avaient aménagé une patinoire l'hiver puis ça causait pas d'obstacle pour les gens qui voulaient aller stationner... Et l'arrondissement avait envoyé des cols bleus mettre du sable sur la glace parce que la patinoire n'était pas autorisée et qu'ils n'avaient pas le milieu de vue requis. Quand t'envoies des employés de la ville mettre du sable sur la patinoire, disons que les citoyens étaient assez furieux.
Ben, je comprends. Puis aujourd'hui, on fait exactement l'inverse de ça.
Ouais.
C'est-à-dire que si les citoyens démontrent que ça ne nuit pas à l'accès au stationnement, qui est un droit, on encourage ce genre de mesures-là partout sur le territoire, puis ça donne des résultats vraiment magnifiques.
Merci, M. Limoges. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. François Limoges est le maire de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.